Alors, j'ai relancé les bots d'enregistrement. Pour la question que tu as posée, je ne sais pas qui c'était. Bon, on va la poser à Christophe, à part si quelqu'un a la réponse ici, en vocal.
Ce ne serait que des suppositions pour ma part.
J'en profite pour dire que si vous avez des questions, vous pouvez utiliser ces émoticônes que je vais glisser dans le chat.
Santé.
Voilà les émoticônes que je viens de glisser, elles sont accessibles dans le menu des smileys. N'hésitez pas à les utiliser comme Feldspace vient de le faire, ça montrera que vous voulez prendre la parole, poser une question, et au moins on n'oubliera personne. Typiquement, Feldspace, si tu voulais prendre la parole, poser des questions, vas-y.
Oui. Moi, j'avais plusieurs questions, dont certaines auxquelles vous avez partiellement ou même répondu. La première, c'était est-ce que vous aviez des traces d'utilisation de poison chez les aborigènes d'Australie? Parce que l'Australie est quand même pas le dernier continent pourvu de tout type de poison. Donc, ça me semblait assez logique que les hommes en soient arrivés à se massacrer la tronche à coups de.
Alors, c'est pas trop leur truc, le poison. Ils font un tout petit peu, ils ont du narcotique pour pêcher. Donc, il y a des endroits où, pour pêcher, ils balancent des trucs dans la flotte et puis ils ramassent ensuite le poisson. En ce qui concerne les armes, il y a très, très, très peu de mentions d'utilisation du poison. J'ai une ou deux mentions où on trempait une pointe de lance dans un cadavre putréfié, pour ensuite aller trucider quelqu'un. Mais là, c'est quand même sans doute, si c'est authentique, parce qu'après, vous savez, quand on tombe sur les trucs 20 fois, on se dit, c'est sûr, c'est bon. Quand on les rencontre une fois, on est obligé toujours de mettre un point d'interrogation, surtout si la source, c'est pas un aborigène. Voilà. Donc moi, j'ai une mention comme ça de cadavre putréfié dans lequel on allait plonger la pointe de la lance, mais voilà. Et sinon, le seul truc qu'on utilisait, c'était au nord, les aiguillons de raie pastenague. Ils sont donc des animaux venimeux, hein, et qu'on montait comme ça comme extrémité, comme tête de lance. Mais globalement, ils percent et ils cognent, mais il n'y a pas de piège et il y a très très peu de poison, quasiment pas.
D'accord. Ma deuxième question, c'est pareil, vous y avez partiellement répondu. C'était est-ce que la relative proximité géographique pouvait être source de conflits? Enfin, disons en comparaison des grands continents européens ou américains où il y a quand même un peu plus d'espace, quoi. Je partais du principe que l'Australie étant un continent cerné par les océans, est-ce que la proximité. Mais c'est pareil, vous avez partiellement répondu en disant qu'il y avait des zones d'Australie où ça se tapait pas, quoi.
Alors, l'Australie, c'est 15 fois la France, et au moment du contact, on estime le nombre d'aborigènes à l'estimation la plus haute, c'est 1 million, et vraisemblablement entre 500 et 600-700 000. Vous voyez, 600 000 personnes sur un truc grand comme 15 fois la France, il y a des endroits où vous pouvez mettre votre guitare électrique fort sans faire chier les voisins. Hein, c'est, voilà. Alors, cela dit, il y avait une inégalité de densité très forte. Hein. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a des zones où c'était beaucoup plus peuplé, mais comment dire, quand vous êtes chasseur-cueilleur, l'espace n'est pas mesuré pareil. Hein. C'est-à-dire que même dans une zone particulièrement favorable, quand vous êtes deux ou trois par kilomètre carré, pardon, deux ou trois pour 100 km carrés, c'est déjà une forte densité en réalité. Donc, enfin, tout dépend comment on mesure. Mais dans les données, en tous les cas, encore une fois, c'est ça qui est frappant, comme source de conflit, on n'a quasiment pas ou pas du tout, genre, ben, on n'arrivait plus à vivre sur notre territoire, pour une raison ou pour une autre, et du coup, ben, on a été piquer le territoire des autres pour s'installer. On voit pas ça dans les témoignages. Ni ceux des Blancs, ni ceux des Aborigènes.
J'avais une troisième question, un peu plus légère, on va dire. De votre point de vue d'anthropologue, est-ce que vous avez une idée de savoir pourquoi les gens, qui disposent d'un gros pénis sont systématiquement discriminés? Est-ce que c'est de la jalousie?
Alors, vous connaissez la vieille réplique de Desproges, hein, c'est « l'ennemi est bête, il croit que c'est nous l'ennemi, alors qu'en fait, c'est lui ». Les gros pénis, c'est pareil, hein, c'est toujours les autres. Hein, c'est-à-dire que vous allez voir la tribu machin, ils disent… voilà. Alors, discriminer, ce n'est pas tout à fait le mot, mais je pense que c'est tout simplement une façon de dire que ces gens-là ne sont pas des êtres humains, ce sont des animaux. Hein, et parmi les trucs racistes des aborigènes australiens, il y a aussi ces gens-là couchent avec n'importe qui. Les Australiens sont très à cheval, il y a des règles d'inceste extrêmement strictes. Alors, inceste, c'est pas avec les enfants, hein, parce que le mot chez nous, il a glissé de sens. C'est, vous avez la moitié, les trois quarts, les sept huitièmes des femmes de votre tribu qui sont interdits. Parce qu'il y a des relations de parenté qui font que, etc. Et donc, c'est considéré comme le crime suprême, un mariage interdit, incestueux, c'est vraiment un truc affreux en Australie. Et donc, vous accusez toujours la tribu d'à côté de se marier n'importe comment et de faire l'amour comme des chiens et de baiser avec leur sœur. Et voilà. Pour ça que je vous dis, les trucs racistes, c'est bien, ça a traversé les âges sans vraiment prendre beaucoup de rides, hélas.
Ouais. C'est la bonne vieille rengaine de mettre quelqu'un hors humanité pour justifier les UPT.
Exactement. Exactement. Voilà.
C'est pour moi.
Justifier. Je sais pas si c'est pour justifier quelque chose, mais après c'est des discussions compliquées, mais en tous les cas c'est sûr que pour les Australiens, il y a un truc moi qui m'avait vraiment frappé dans le vocabulaire des aborigènes, les blancs ont eu ce problème là, c'est à dire qu'au début ils se payent des guides ou des employés aborigènes, et puis à un moment donné ils ont envie d'aller se balader, d'aller à 200 bornes pour, je sais pas moi, pour conduire un troupeau de moutons, pour etc. Et les aborigènes sont terrorisés et ils disent je veux pas aller là-bas. Il dit, pourquoi tu vas pas là-bas? Il dit, là-bas, c'est les Noirs sauvages. Sous-entendu, nous, on est les Noirs civilisés, mais là-bas, c'est les Noirs sauvages. Et les Blancs ont fini par retourner le truc à leur avantage en constituant des unités de police aborigènes, en leur filant évidemment des flingues et en les envoyant loin de chez eux en disant, regardez les gars, c'est bon, vous avez les flingues et maintenant, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Et ces unités de police se sont signalées au moins dans les premiers temps, par leur extrême cruauté et leur extrême brutalité, parce qu'un certain nombre d'aborigènes en profitaient pour régler leurs comptes immémoriaux avec les ennemis jurés, des gens qui connaissaient évidemment ni d'Ève ni d'Adam, mais dont ils avaient toujours entendu dire que c'était des salopards qui voulaient leur mort, et donc maintenant c'est eux qui avaient les flingues, donc ils font bien. Je suis désolé, j'ai plombé l'ambiance. Même avec la question légère.
C'est réjouissant. Alors, il y a Brassard qui avait une question, je vais la lire, il y en a plusieurs, tu prendras celle que tu souhaites. Il ouais. dit, les guerres sont donc des mésententes juridiques qui ont dégénéré. Alors, ouais. les guerres sont-elles codifiées ou est-ce que c'est juste un massacre? C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, on pouvait prévenir de la date du combat? Est-ce qu'on pouvait tuer les femmes, les vieux, les enfants? Est-ce qu'il y a une grosse punition ou un ethnocide, une annihilation de la tribu carrément? Et ensuite, est-ce qu'il y a une hiérarchisation du groupe relatif à la bataille? Est-ce qu'il y a des grands guerriers, des chefs de guerre, ou est-ce que tous les individus sont égaux? Et de même, lors d'une vengeance, est-ce que le statut de la victime a une importance? Tuer un grand guerrier, meurtre d'un petit, c'est quelque chose.
C'est une des plus belles collections de questions que j'ai vues. Hein. Non, mais elles sont toutes tout à fait pertinentes et je me les suis posées. Donc, je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Est-ce que les guerres sont codifiées ou est-ce que c'est juste un massacre? Alors, ça dépend des cas. J'ai les deux. Donc, il y a des endroits où il y a des guerres où on attaque par surprise et on tue le plus de gens possible. Hein. Alors, l'attaque par surprise, il y a deux façons. Hein. Il y a le raid et l'embuscade. Hein. Donc, soit c'est vous qui allez chez les autres en les chopant au déboté, et voilà. Soit au contraire, vous les attirez, vous avez compris qu'ils venaient chez vous pour vous voir venir du mal, et vous leur préparez une embuscade, et il y a déjà des récits aborigènes de comment on prépare le truc, etc. Enfin, ça n'a rien à envier à ce qu'on voit plus tard, voilà. À côté de ça, il y a aussi des batailles qui se déclarent dans les formes. Donc, il y a d'autres endroits ou d'autres circonstances où là, il y a tout un cérémonial. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose. Là, c'est entre des clans d'une même tribu, mais où des fois, ça chauffait très, très fort. et où là, il y a tout un, quand vraiment ça colle, ça dégénère. Donc là, on va tout un processus. On va se rencontrer, évidemment, effectivement, on va se donner rendez-vous à un endroit. Sauf qu'on a quand même le droit de s'y prendre par surprise. Donc, vous voyez, c'est, voilà. Mais enfin, où là, c'est effectivement, on peut dire codifié. Cela dit, le plus fréquent qu'on a, c'est quand même que quand on se bat, on essaye d'utiliser l'effet de surprise et donc on codifie pas trop. Alors, tuer les femmes, les vieux et les enfants aussi. Alors, ça, aucun problème. C'est, comment dire, c'est codifié, c'est codifié au sens où tout le monde le fait, quoi. Voilà, c'est pas, ça ne pose, et je peux vous assurer qu'il y a des détails, enfin, avec les gamins, etc. Enfin, des trucs épouvantables. Hein. Enfin, dire, il y a aucun sentiment dans cette affaire-là. Hein. C'est, voilà. Tout ce qui peut faire qu'on tue pas les femmes, c'est que de temps en temps, on en pique. Mais après, il y en a, ils en piquent, et puis leurs voisins, ils ont décidé que de toute façon, il fallait la tuer, et donc, la femme, elle fait 200 mètres, et boum, il y en a un qui lui met un coup de, qui lui fait éclater le crâne d'un coup de massue, et voilà. Enfin, c'est des... enfin, je vous jure que j'invente pas, hein. C'est, voilà. Alors, est-ce une grosse punition ou un ethnocide? Eh ben, je vous dirais bien, ça dépend des moyens de celui qui déclenche la guerre. En général, quand on y va, c'est pour faire le plus de dégâts possible. Alors après, évidemment, les autres se laissent pas faire. Des fois, ils s'enfuient, des fois, ils vous voient venir, et voilà. Donc, mais il y a des cas de liquidation de tribus par une autre. Oui, absolument. Alors, est-ce qu'il y a une hiérarchisation du groupe relatif à la bataille? Oui. Alors, entendons-nous bien, parce qu'on entend par hiérarchie, un mot piège. Il y a, en général, un chef de guerre. C'est-à-dire quelqu'un qui va faire exécuter les manœuvres, en particulier si vous déclenchez des manœuvres par surprise, que ce soit un raid ou une embuscade, vous pouvez pas y aller en bordel, hein, il faut qu'il y en ait. Voilà. Et il y a même des endroits où ce chef va avoir des signes distinctifs, hein, une coiffure spéciale, un truc comme ça qui fait qu'on le voit de loin. Et voilà. Mais ces chefs n'ont pas le droit de punir. C'est pas des chefs militaires modernes, c'est pas des chefs d'un État. Et donc, la participation au combat est toujours sur la base du volontariat, et un guerrier qui, comment dire, qui se dégonfle et qui dit ben moi je le sens pas, je veux pas y aller, personne va le punir pour désertion. Vous voyez, ça repose sur la bonne volonté. Alors après, comment dire, la réalité c'est toujours quelque chose d'un peu voilà, c'est-à-dire que c'est la bonne volonté, mais enfin celui qui se dégonfle, il passe vraiment pour une grosse truffe, et auprès des autres mecs, et auprès des femmes. Parce que les femmes derrière, elles poussent les gars en disant « Mais qui m'a filé un dégonflé pareil ?»« Mais quand est-ce que tu vas aller te venger ?» etc. Il faut bien voir que les femmes, elles, elles ne sont pas armées. En général, elles ne se battent pas. Ou à la limite, elles se battent, mais contre les autres femmes. Et elles, elles sont sous la menace permanente, justement, des attaques des autres. Et donc, pour elles, un moyen de défense qui est à leur portée, c'est d'avoir des hommes dissuasifs pour que les mecs d'en face n'aient pas trop envie de venir s'y frotter. Et donc, elle, c'est pas du tout l'influence apaisante des femmes, etc. Au contraire, les témoignages, c'est plutôt qu'elles vont exciter les mecs pour que les gars, ils aient du cœur à l'ouvrage. Alors donc, est-ce que tous les individus sont des soldats égaux? Oui, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait un qui joue le rôle de coordinateur, qui est l'ascendant sur les autres, etc. Alors, lors d'une vengeance œil pour œil, le statut de la victime a-t-il une importance? Tuer un grand guerrier suite au meurtre d'un faible, justifie-t-il une accalade? Ben, des fois, oui. Alors, il y a un témoin savoureux et extraordinaire d'un jésuite, un prêtre en tous les cas, je ne sais plus si c'est un jésuite, mais qui est un Italien. C'est d'ailleurs pour ça qu'un des endroits en Europe où il y a les plus belles collections d'objets d'origine, paraît-il, c'est le Vatican, parce que la mission là qu'ils avaient à cet endroit-là, enfin ils avaient une mission vers la ville de Perth qui est au sud-ouest de l'Australie, voilà. Et le mec raconte, il a écrit ses mémoires, c'est absolument extraordinaire, et il raconte que comme les aborigènes l'aimaient beaucoup, il lui répétait que le jour où il mourrait, et ben pour le venger, il tuerait pas un ennemi comme d'habitude, mais ils en tueraient 6 parce que lui vraiment il l'aimait beaucoup. Alors évidemment, le curé était un petit peu embêté de ce genre de déclaration d'amour, mais effectivement, on a des récits où, comprenez bien, si on avait vengé tout le monde un pour un comme ça, il n'y aurait plus eu d'aborigènes au bout de 200 ans. Hein. En réalité, la plupart des gens qui mouraient, on les laissait pisser, soit qu'on n'avait pas trop envie de les venger, soit qu'on avait bien envie, mais qu'on n'en avait pas les moyens, parce que quand vous commencez pour se venger, les autres ne sont pas forcément d'accord. Hein. Bon, voilà. Donc, effectivement, il y a ce que dit, entre guillemets, la loi. Il y a la loi du talion telle qu'elle est, l'idéal moral, voilà. Il y a ce que vous en faites dans la réalité. Et dans la réalité, effectivement, selon qui on voulait venger et auprès de qui, eh ben, on modulait tout ça. Et effectivement, il y a des tas de gens qui sont morts en Australie sans que personne ait eu jamais l'idée de les venger. Et par contre, il y a des récits. Alors là, je parlais de Salvador là, qui dit ça, mais il y a un autre récit sur justement un raid qui fait au moins une quinzaine de morts suite au décès de un gars, mais qui était un gars très très aimé, très apprécié, etc., etc. Et où là, les aborigènes sont fous furieux quand ce mec, alors ce mec en plus meurt d'un accident, enfin lui il tombe d'un arbre ou un truc comme ça, mais ils sont convaincus qu'il y a, c'est une tribu d'à côté qui a fait le coup, et ils y vont et ils tuent 15 personnes. Voilà. Ben, je crois que j'ai répondu aux questions. Alors, comment on différencie violence, violence en groupe et guerre? Est-ce qu'il y a des définitions claires? Bonne question. Alors, violence, bah, ça va, c'est facile. Violence en groupe, ça va bien aussi, c'est quand vous êtes plusieurs, ça jusque-là, c'est bon. Alors, la définition de la guerre, non, il n'y a pas de consensus, c'est épouvantable. Il y a des bibliothèques entières de livres qui se sont écrits sur la définition de la guerre, et en particulier, il y a un truc qui pose vraiment problème, c'est justement de définir la guerre par rapport à la vendetta. C'est-à-dire que c'est un truc dans toutes les sociétés sans État, c'est un truc très classique que les groupes se fassent justice eux-mêmes. Hein, c'est le principe d'une société sans État. Hein, c'est il n'y a pas de police, il n'y a pas de justice, donc la justice, tu te la fais toi-même, sinon t'es une victime désignée. Et donc que les groupes, quand on leur tue quelqu'un, bah, ils vont tuer quelqu'un dans le gars d'en face, et puis comme le gars d'en face, le camp d'en face, il n'est pas bien convaincu de la légitimité de la vengeance, bah, il en retue un, etc. etc. Bah, le truc à la Corse, à l'Albanaise, à la Sicilienne, tout le bassin méditerranéen connaît bien ça. Et en fait, le monde entier sans État connaît bien ça. Alors, grande discussion sur la différence entre guerre et vendetta. On voit bien que ça a un air de famille, mais que c'est quand même pas la même chose. Moi, j'ai retenu la solution qui a été proposée très récemment par Boulestin, encore lui, mais il est redoutable, qui a fait un article que je trouve vraiment lumineux et qui m'a d'ailleurs un peu sorti de la mouise, parce que moi j'ai fait tout un chapitre dans le bouquin pour essayer de raconter ces discussions, et voilà. Lui, il a il a tranché les choses d'une manière qui me semble tout à fait qui fonctionne, voilà. Il dit en gros, la différence entre la guerre et la vendetta, c'est pas en soi l'utilisation de la violence, puisque voilà, puisque dans les deux cas vous essayez de vous tuer, c'est pas le fait que ce soit en groupe, parce que dans les deux cas c'est en groupe. C'est pas non plus la nature des groupes. Très souvent, la réponse, ça a été ça. Alors, vous comprenez, quand c'est des groupes comme ci, c'est de la guerre. Quand c'est des groupes comme ça, c'est de la vendetta. Mais en réalité, ça marche très mal, cette affaire-là. Et lui, il dit, en fait, ce qui différencie la vendetta de la guerre, c'est que la vendetta, on compte. On fait une bataille pour tuer un certain nombre de gens, pour équilibrer les pertes. Voilà. Et donc, vous y allez pour tuer deux personnes, ou une personne, trois personnes, mais trois, pas douze. Voilà. Parce que vous estimez que vous avez eu trois tués et que là, il faut les venger. Et il y a cette idée que la vendetta, c'est un équilibrage des pertes. La guerre, c'est pas ça. La guerre, vous y allez pas pour équilibrer des pertes, vous y allez pour réduire l'ennemi, pour l'écrabouiller, pour lui passer l'envie de recommencer, pour l'annihiler, pour tout ce que vous voulez. Voilà. Et donc, on voit très bien comment la vendetta peut dégénérer en guerre. Il y a un moment où on ne compte plus. Alors, c'est pour reprendre le célèbre proverbe, hein, vous passez de œil pour œil, dent pour dent, à pour un œil les deux, et pour une dent toute la gueule. Enfin, c'est une célèbre blague. Voilà. Et ben, la différence entre la guerre et la vendetta, c'est ça. Et évidemment, qu'est-ce qui va favoriser ce glissement? Et ben, c'est le fait d'avoir justement une relation d'hostilité qui dégénère, et qui fait que, voilà. Parce que des fois, les vendettas, il y a des fois, ça se passe, si j'ose dire, ça se passe très bien. Hein. Dire meurtre de compensation, vous êtes un groupe australien. Chez vous, il y a un chieur, il y a un mec qui fout la merde, il y a un bagarreur, il y a un mec qui aime ça, qui aime le sang, qui est sans arrêt en train de foutre la zone, d'aller piquer les femmes des autres, d'aller tuer des... vous n'êtes pas obligé de trouver ça bien. Parce que, comprenez, ce gars-là, il vous attire des ennuis. Et le jour où vous avez un groupe de vengeurs qui arrive de la tribu d'à côté en disant « Il est où, machin ?» parce que ça commence à bien faire, on veut se le faire, bah, des fois, vous dites bah, « Très bien, regardez, il est là, allez-y donc. Nous, il nous emmerde depuis 20 ans, on n'arrive pas à se le faire, mais vous, vous avez l'air plus costaud et plus nombreux, servez-vous. » Bah, je vous jure qu'il y a des trucs qui ressemblent, bah, qui sont de cette nature-là. Et puis, des fois, au contraire, vous avez une solidarité. Vous dire « Machin, c'est peut-être un connard, mais c'est un connard de chez nous. » Et donc là, il n'est pas question que les autres y viennent pour nous tuer, etc. On va se défendre. Et vous voyez, c'est ça la différence entre des représailles ponctuelles et limitées qui sont du meurtre de compensation et qui sont éventuellement du feud quand ça fait une partie de ping-pong, et puis un truc qui dérive vers une hostilité sans frein entre deux groupes. Alors, je pensais que le terme guerre était indissociable de la notion d'État. Alors, ça, c'est toujours pareil. C'est un choix de définition. Donc, vous avez des tas de gens qui vous disent « La guerre, c'est menée par les États. » Bon, ok, très bien. Mais alors, du coup, quand vous tombez sur des gens qui se foutent sur la gueule sans frein dans une société qui n'a pas d'État, vous appelez ça comment ? Vous voyez, donc, l'intérêt, c'est quand même de se dire « Il faut choisir les mots de la manière où ils nous aident à comprendre et ou pas où ils nous obscurcissent. » Et donc, effectivement, poser par principe que la guerre ne saurait être que le fait des États, à mon avis, c'est un mauvais choix. Voilà. Alors, comment voyez-vous les documentaires et les reportages écolo à mon nature qui présentent les primitifs chasseurs-cueilleurs comme des individus en paix entre eux, en harmonie? Les ethnologues s'en mordent les doigts. Bah, ça dépend lesquels. peut-on dire sans trop exact. Alors, comment on voit ça? Comment les ethnologues et les archéologues, voilà, bah, ça dépend. Alors, les ethnologues et les archéologues sérieux, je pense que oui, ils s'en mordent les doigts. À présent, vous savez comment les historiens sérieux ils voient ce qu'on entend sur Jeanne d'Arc et sur Charles Martel, etc. Bah, pareil, ils s'en bouffent les doigts. Hein. L'utilisation du passé repeint à la sauce qui convient pour faire un récit sur le présent et sur le futur, il n'y a pas grand monde qui échappe à ça. Et, alors, après, il y a des gens dont la morale scientifique et politique fait que, en tous les cas, ils essayent de ne pas verser là-dedans. Et puis d'autres qui s'en foutent, et vous voyez, tous les coups sont bons. Mais effectivement, alors, soit dit en passant, il y a le truc inverse, hein, il y a les chasseurs-cueilleurs, sombres brutes, sanguinaires, qui se piquaient leurs femmes, se piquaient leur bouffe, et où c'était la loi de la jungle. Vous voyez, il y a les deux caricatures existent. Alors, est-ce que tous les peuples du monde se sont foutus sur la gueule avec leurs voisins au moins une fois dans leur histoire? Je sais pas. D'abord, moi, je vais vous dire un truc. Je sais pas ce que c'est qu'un peuple. Je dis ça de manière un peu provoque, mais tout ça, ça passe son temps à se mélanger. Vous savez, en Australie, moi, je parle de temps en temps des tribus, pour faire comme tout le monde, et puis parce que c'est pratique. Mais en réalité, personne n'a jamais pu donner la définition d'une tribu. Si vous dites une tribu, c'est une unité de langue, ça marche pas. Il y a des tribus où il y a plusieurs langues, puis il y a des tribus différentes où on parle la même langue. Si vous dites la tribu, c'est un territoire, ben d'accord, mais sauf qu'il y a des gars qui sont sur le bord et qui vous disent qu'en en fait, ils vont plus facilement chez le voisin qui est de la tribu d'à côté que chez celui qui est de la leur, voilà, etc., etc. Et il n'y a pas de définition de la tribu. J'ai bien peur que le peuple soit la même chose. Comprenez, le peuple français, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui ont une carte d'identité marquée la France dessus, d'accord, peut-être, mais enfin, il y a 1000 ans, c'était quoi le peuple français? Enfin, voilà. Alors, la vraie question, je pense, qu'on peut se poser derrière tout ça, c'est est-ce que toutes les sociétés de chasseurs-cueilleurs ont connu la guerre à un moment ou à un autre? J'en sais trop rien, je préfère pas m'avancer là-dessus. Encore une fois, même en Australie, il y a des zones où il y a la guerre, il y a des zones où elle n'y est pas. Parce qu'il y a des endroits, pour qu'il y ait la guerre, il faut que la mayonnaise prenne au niveau collectif, pour que l'escalade des conflits se fasse au niveau collectif. Vraiment comme une mayonnaise. Et que ça, il y a des facteurs qui peuvent éventuellement empêcher la mayonnaise de prendre. Hein, il y a une île, par exemple, qu'on connaît très bien, qui est très documentée au niveau ethno. Il y a des vendettas. Il y a des bastons, il y a tout ce que vous voulez, et on le fait collectivement, et il n'y a pas de guerre. Et pourquoi il n'y a pas de guerre? Parce qu'il y a un système de parenté assez particulier si vous voulez, qui décroise les solidarités et qui fait qu'il n'y a pas de groupe constitué qui peut y aller suffisamment fort. Enfin, c'est compliqué à expliquer comme ça, mais voilà. Donc, il y a sûrement eu plein de configurations différentes. Ce qui est sûr aussi, c'est que dès que vous êtes dans des environnements où vous êtes vraiment très dispersés, ça devient quand même très compliqué d'avoir des conflits collectifs. Alors, par exemple, moi, j'ai bossé un peu sur le monde inuit, le monde des Esquimaux. Et ben, vous avez la guerre à l'ouest de la rivière Mackenzie, c'est-à-dire en gros dans l'Alaska, et vous n'avez pas de guerre entre Esquimaux à l'est de ça, c'est-à-dire de l'ouest du Canada jusqu'au Groenland. Mais une des raisons simples, c'est que encore une fois, quand vous êtes à 0,1 personne par kilomètre carré ou par 100 kilomètres carrés, je ne sais plus, fatalement c'est des chiffres dérisoires, faire des guerres collectives, c'est pas de la tarte, quoi. Enfin, voilà. Pardon, j'ai parlé longtemps, mais j'espère que... Alors, il y avait quelqu'un qui ne voulait pas poser une question vocalement.
Oui, c'était moi. Vous avez fait mention de sociétés qui avaient des modes d'organisation anthropophages, où les types se bouffaient entre eux après la baston. Est-ce que vous avez eu des témoignages, parce que je pense que pour trouver des preuves archéologiques, ça va être compliqué, mais des témoignages de maladies de type prion, neurodégénérative, qui seraient issues de ce mode anthropophage, en fait?
Ouais, alors on m'a déjà posé une fois la question. Bah, moi, je suis anthropologue social, hein, donc les questions biologiques, des fois, je tombe dessus, mais c'est vraiment pas mon domaine de spécialité. À ma connaissance, le seul endroit où ça a été avéré, c'est donc dans une tribu de Papouasie qui s'appelle les Forêts. C'est eux qui avaient en quelque sorte fait si je me rappelle bien, le premier cas de enfin pas de vache folle, mais enfin d'encéphalite spongiforme ou un truc comme ça, enfin un truc qui ressemblait un peu à ça. Mais je crois que c'est quand même un cas à ma connaissance unique. Alors peut-être que c'est dû à ma connaissance qui est lacunaire. Comment dire, le cannibalisme est quelque chose d'extrêmement commun, hein, faut pas croire, enfin, je veux dire, dans les populations de chasseurs-cueilleurs et dans les populations néolithiques, ça se fait très couramment. Maintenant, ça veut pas dire qu'on en bouffe à tous les repas et tous les jours, quoi. Vous voyez, en plus, les forêts, ils avaient ce truc spécial, c'est qu'ils se bouffaient la cervelle, si je me rappelle bien. Là, les Australiens, ils bouffent pas la cervelle, hein, ils bouffent soit la chair, soit la peau éventuellement. Enfin, il y a un côté, il y a un côté cérémoniel. Alors, quand je dis cérémoniel, ça ne veut pas dire religieux, hein, mais il y a un côté symbolique dans le rituel. Pas de la religion, hein, la religion n'a rien à voir là-dedans, mais il y a le côté, encore une fois, t'es mon ennemi, je te réduis à néant, voilà ce que j'en fais de ton truc, voilà, t'existes plus. Ou au contraire, tu étais mon parent, tu restes dans mon cœur, comme nous on dirait, tu restes vivant dans mon cœur, voilà. Et des fois, les Australiens, alors, ils ont des tas de rites funéraires très compliqués, très variés, voilà. Des fois, ils dessèchent les cadavres, ils trimballent les cadavres avec eux, mais pendant des mois et des mois, des fois, enfin bon, voilà. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, quand l'archéologue passe derrière, il est bien embêté. Pardon. Il y avait quelqu'un qui voulait reposer une question, je crois.
Oui, moi j'avais une question aussi. J'avais sous les yeux le livre de George Fraser, le Rameau d'or, où il rapporte plein de coutumes, etc. Et de souvenirs, il me semble qu'il parlait de certains tabous pour les gens qui avaient tué d'autres personnes. Et de souvenirs, il me semblait qu'il abordait les aborigènes. Est-ce que tu peux confirmer les tabous liés au fait d'avoir tué quelqu'un? Non.
Non, ça me dit... Alors. Oui, effectivement, le meurtrier dans un certain nombre d'endroits, ça me dit quelque chose, va être effectivement frappé d'un certain nombre d'incapacités. Il va falloir que, comment dire, alors je voudrais pas dire de bêtises parce que là c'est pareil sur les croyances, c'est tellement compliqué. On a vite fait d'employer des mots qui bon voilà, j'allais dire de se purifier, mais voilà, c'est sûrement pas ça. En ce qui concerne les aborigènes, alors moi, je ne me suis pas trop intéressé à ces aspects-là, donc je ne jurerais pas que ça n'existe pas, mais j'en ai pas trouvé des tonnes quand même. Hein. Enfin, ça ne me dit rien comme ça. Enfin, en particulier, Après la bataille, par exemple, comme quoi il y aurait des trucs spéciaux, non, ça ne me dit rien. Faudrait revoir. Hein. Enfin, là, j'avoue que je ne sais pas. En fait. J'aurais tendance à dire qu'il n'y a pas trop de ça chez eux, mais si ça se trouve, voilà. Est-ce que ce n'est pas plus pour les meurtres des parents Mais vous comprenez, il se fait tellement de choses dans tellement d'endroits différents que l'idée que quelqu'un qui a fait un meurtre, il est en quelque sorte chargé d'électricité et qu'il faut procéder à un certain nombre de rites et de manœuvres pour en refaire quelqu'un de normal est une idée, je crois, assez répandue. Mais encore une fois, j'ai pas souvenir, c'est une question, c'est marrant, hein, mais je me la suis pas vraiment posée au cours de mes lectures, sans doute, mais la seule raison pour laquelle je me la suis pas posée, c'est que je suis pas tombé sur des trucs qui racontent ça. Sinon, forcément, tu vois, c'est un raisonnement par la négative, mais si j'étais tombé sur des machins comme ça, je m'y serais arrêté et je me serais dit, tiens, voilà. Mais encore une fois, ça existe dans pas mal d'endroits. Alors après, il peut y avoir des variations, des endroits où on le fait quand c'est un certain type de meurtre, des endroits où on le fait tout le temps, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des conflits pour origine la violation du sacré ? Oh là oui, oulala, oui. Alors, ça rigole pas la religion, on rigole pas avec la religion. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on rigole avec la religion, mais pas plus en Australie qu'ailleurs. Alors, la religion en Australie est une religion à initiation. Ça veut dire qu'il y a des secrets religieux et des secrets religieux extrêmement jalousement gardés. À tous les coups, il y a les secrets religieux des hommes. Et donc, il y a des objets sacrés que tout non-initié, les non-initiés étant les femmes et les enfants, qui les voient, qui les touchent ou qui s'approchent de trop près, c'est la peine de mort. Pour les femmes, éventuellement, si vraiment on est très sympa, on peut remplacer la peine de mort par un viol collectif, mais c'est vraiment uniquement si on est de bonne humeur. Hein, c'est voilà. Dans quelques autres endroits, il y a, beaucoup plus rare, il y a aussi des secrets religieux féminins, et où là aussi les hommes encourent des sanctions s'ils tombent sur les objets sacrés féminins, mais j'ai jamais bien réussi à savoir la nature exacte de ces sanctions, si c'était pas beaucoup plus symbolique. Voilà. Alors, en tous les cas, donc, ça rigole pas du tout avec les cérémonies religieuses, et les jeunes sont absolument… Alors, c'est là où les sociétés sont compliquées. Formellement, en Australie, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a personne qui a le droit de commander à personne. Mais les cérémonies religieuses, vous avez quand même les anciens qui sont initiés, qui conduisent les cérémonies et qui ont, au nom de ça, un pouvoir de vie et de mort sur les violations des rites. Donc, vous comprenez bien, quand vous êtes un ancien et que vous avez le droit à tout moment de dire que n'importe qui, que Bidule, il a fait une connerie et que du coup, il faut le tuer, etc., en particulier les jeunes, on a des tas de récits comme quoi les anciens terrorisaient littéralement les jeunes, en particulier au moment de leur initiation, et ils pouvaient, un jeune un peu, qui avait eu un peu la langue trop bien pendue, qui avait une grande gueule, etc., on le faisait ramper pendant des heures sur des cailloux au soleil brûlant, enfin, façon des militaires, hein, enfin, vous voyez, les mecs se mettaient à l'ombre et ils se foutaient de sa gueule en attendant, puis ils le faisaient tourner en disant « c'est la religion qui veut ça », et voilà, et ils les mataient comme ça. Et j'ai quelques cas de conflits donc qui ont été déclenchés avec comme prétexte que le chef d'en face avait fait une connerie pendant la cérémonie et donc il faut aller les tuer, ces salopards. Voilà. Cela dit, c'est pas des guerres de religion au sens où les gens qui accusent les autres d'avoir merdé, ils ont merdé dans la même religion qu'eux. Vous voyez, c'est pas les catholiques qui disent « vous n'avez pas le droit d'être protestant » ou les islamistes qui disent « tout le monde doit être converti au prophète » ou j'en sais rien, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas, ils ont la même religion, mais ils vont dire « machin, il a merdé pendant une cérémonie, donc lui, on se le fait, et puis tous ceux qui sont avec lui, on se les fait aussi. Question sur l'extermination des grands mammifères australiens. Pourquoi les kangourous ont survécu et les Européens sont-ils à l'origine des dernières… Pourquoi les kangourous ont survécu ? Parce qu'ils courent vite. Non, je blague. Alors, je crois qu'effectivement, la mégafaune australienne a bien morflé en moins 50 000 quand l'homme est arrivé, l'homme étant un super prédateur. Après, l'homme a tué un certain nombre de bestioles qui étaient sans doute trop lentes, trop tout ce que vous voulez. Voilà. Les kangourous, ça se reproduit comme des lapins, il y en a des millions. Et donc, les aborigènes en chassaient pour se bouffer, en chassaient pour bouffer, mais il n'y a jamais eu de danger d'extinction des kangourous, ni des émeus, ni d'un certain nombre de trucs. Alors, en plus, faut pas exagérer le côté écolo des chasseurs-cueilleurs, mais enfin, dans une certaine mesure, ils essayent quand même de faire gaffe à la reproduction des espèces, ils sont pas cons, ils savent qu'il faut ménager un peu des choses pour qu'il y ait à bouffer l'année prochaine. Enfin voilà, donc dans une certaine mesure, dans la mesure limitée de leur connaissance, évidemment. Mais enfin, pourquoi il n'y a pas eu un scénario île de Pâques ? Alors, l'île de Pâques, c'est un type totalement différent de société. Moi, je connais pas très bien tout ça. Je sais pas exactement. Donc effectivement, il se dit que ils ont tout déboisé, que ils ont, trop forcé sur les ressources, etc. L'Australie est restée depuis 50 000 ans un continent de chasse-cueillette avec des densités de population extrêmement faibles. Encore une fois, 500-600 000 personnes sur 15 fois la France. Vous voyez, c'est 100 fois moins que la population française actuelle sur 15 fois plus de territoire. C'est ça fait 800 ou 9, une densité 900 fois inférieure, vous voyez, c'est cet ordre-là. Et après, de toute façon, de temps en temps, il n'y a pas que les kangourous qui morflent, les êtres humains morflent aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, vous avez une sécheresse, l'Australie c'est très sec, et donc les chasseurs-cueilleurs, si peu nombreux soient-ils, ils sont quand même à la merci des fluctuations climatiques, des fluctuations du gibier. Alors, un truc qui les sauve, c'est que comme ils sont généralement assez mobiles, les chasseurs-cueilleurs font pas beaucoup d'enfants. Prenez, vous allaitez jusqu'à 3-4 ans. Les mômes, quand ils sont en bas âge, comme il faut se déplacer souvent, il faut pouvoir se les trimballer. Et les femmes ont pas les enfants les uns derrière les autres, y compris quand elles ont un enfant trop tôt, elles le tuent. Voilà. Et donc en réalité, les chasseurs-cueilleurs sont pas des gens qui font beaucoup d'enfants et où il y a des taux de natalité. C'est quand on se pose et qu'on fait de l'agriculture que là, il y a une tendance à l'explosion du taux de natalité et d'ailleurs à l'explosion de la population. Le kangourou est dur à mâcher, c'est possible, je n'ai jamais essayé, il reste entre les dents, c'est pouvoir. Alors, il n'y a jamais eu de forme d'agriculture en Australie aborigène ? Non. Voilà, alors, grande discussion en ce moment, ça c'est un truc qui agite beaucoup les milieux. Certains milieux progressistes, enfin, entre guillemets, en Australie, et qui essayent absolument de tirer les aborigènes du côté de pasteurs, d'agriculteurs, de pisciculteurs, de tout ce que vous voulez, mais non. Il y a des trucs qui sont de la proto-agriculture, si vous voulez. Enfin, ils sont pas complètement débiles. Quand ils cueillent des ignames, ils en laissent un petit bout dans la terre pour que ça repousse ou des choses comme ça. Mais il y a rien qui ressemble pour de vrai, à de la vraie agriculture. Alors, c'est étrange, c'est étrange, et croyez bien que ça... Non, c'est pas trop aride, enfin, il y a des endroits où il y avait des céréales sauvages qui étaient cueillies, on en faisait des galettes, là où pousse la céréale sauvage, la céréale domestique pourrait pousser. L'agriculture s'est arrêtée pile à la pointe du Cap York, donc vous avez les papous qui sont descendus, qui ont amené d'ailleurs au passage le dingo, le chien semi-domestique des aborigènes a été amené il y a 3500 ans. Et à la pointe du Cap York, les papous sont arrivés, ils ont rencontré les aborigènes, ça s'est arrêté là, il y a une île où ils se sont mélangés, et l'agriculture n'a jamais franchi le Cap York. Alors, le fumage a franchi le Cap York, la pirogue à balancier a franchi le Cap York, et l'arc et l'agriculture n'ont pas franchi le Cap York. Et alors là, je vous dis pas les discussions entre anthropologues pour essayer d'expliquer ça. Je crois pas qu'on ait jamais trouvé une explication qui soit satisfaisante. On ne sait pas très bien. De même que ailleurs, je vous dirai tout de suite, si vous savez vraiment vous pourquoi on a inventé l'agriculture ailleurs, surtout vous me le dites. Enfin, puis vous le dites aux autres. Mais voilà. Et en réalité, on comprend très mal tout ça. On le comprend. Ah. J'ai mon zoom qui s'est arrêté. On constate que dans certains endroits, l'agriculture a démarré. Et puis, à partir du moment où elle démarre, ceux qui l'ont adoptée ont un avantage populationnel tellement considérable sur ceux qui l'ont pas, que de toute façon, ceux qui l'ont pas, soit ils deviennent agriculteurs, soit ils se font chasser. Ça, c'est une loi des sociétés qui marche à peu près bien. Sauf, encore une fois, dans les endroits les plus reculés où là, les agriculteurs, ils vont pas. Mais alors, pourquoi à certains endroits, il y a des gens qui basculent vers l'agriculture et pas d'autres? Et vous avez des gens qui sont restés au milieu entre les deux. Ils ont fait peu d'agriculture, pas beaucoup. Voilà. Mais c'est des trucs globalement, quand on rentre dans les détails, on découvre des problèmes qu'on n'avait pas soupçonnés. Alors, dans le cas des hommes aborigènes, n'aurait-on pas tendance à considérer que leur société n'aurait pas évolué entre le néolithique et le 19e siècle? Se pourrait-il que les pratiques guerrières soient plus récentes qu'on ne le croit? Alors, c'est une excellente question. Évidemment, ce serait un non-sens de dire que les sociétés aborigènes n'ont pas évolué. Alors, je vous dirais même pas seulement depuis le néolithique. Enfin, eux, de toute façon, le néolithique s'en foutent. Hein, ils l'ont jamais connu. Hein, voilà. Mais même depuis leur arrivée. Il va de soi que les sociétés d'il y a 60 000 ans ne sont pas les sociétés qu'on a vues en ethno. Après, toute la question, c'est elles le sont pas, jusqu'à quel point? Vous voyez, c'est comprenez, c'est je sais pas moi, pour prendre un objet technique, les automobiles de 1950 ne sont pas les automobiles de 2020, mais clairement, c'est quand même des automobiles et ça se ressemble. Voilà, surtout quand vous comparez avec une carriole à chevaux ou avec voilà. Alors, on sait qu'il y a des choses par l'archéologie, qui nous donne quand même quelques indices. On sait qu'il y a des choses qui se sont passées. Les archéologues parlent beaucoup d'une espèce d'intensification. Il y aurait 3 000 à 4 000 ans, on voit qu'il y a eu des décollages qui se sont faits et que il y a eu quelques innovations techniques. Il y a eu voilà. Alors, par exemple, l'Australie n'a jamais inventé l'agriculture, mais c'est eux qui ont fait la hache polie la plus vieille du monde. Vous voyez, c'est selon ce que vous prenez. Voilà. En tous les cas, les guerres australiennes, personne n'a la moindre idée de leur ancienneté. Ouais, moi, tout ce que je peux vous dire sur le matériel que je vois, c'est pas les Blancs qui les ont amenés. Donc, ça existait avant. Ça, moi, ça me semble incontestable. Enfin, je veux bien qu'on le conteste, mais franchement, voilà. Pour moi, les arguments à plus de 99,999% vont dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est quelque chose qui avait 100 ans, 500 ans, 1000 ans, 3000 ans, etc. Je n'ai pas le moindre élément pour y répondre. Je vous ai dit, l'archéologie ne nous dit rien. Alors, rien. Tout ce qu'on a, c'est ces représentations donc de conflits dans une région qui est la Terre d'Arnhem, donc le nord-ouest de l'Australie, et où on a des représentations qui remontent à moins 10 000, pour autant que les datations soient bonnes. Moi, j'y connais rien en datation, mais ce que je sais, c'est que dater des peintures, c'est toujours la galère. Et donc, avec des scènes qui semblent être des scènes de bagarre collective qui remontent à moins 2000. Voilà, moins 2, moins 3000. Donc, il y a quelques éléments qui laissent penser que les guerres ne sont pas toutes récentes. Que les guerres australiennes ne sont pas toutes récentes. Et par le raisonnement, on se dit qu'il n'y a pas tellement de raisons qu'elles l'aient été. Parce qu'on ne voit pas ce qui se serait passé il y a 200 ans ou 300 ans. Voilà. Mais encore une fois, on sait peu de choses parce que l'archéologie nous donne peu d'indices. Voilà. Donc, et en tous les cas, ça serait par contre dans l'autre sens, tout à fait hors de propos de dire il y a des guerres depuis 50 000 ans en Australie. Voilà. Ça on n'a pas le moindre élément qui permet de le dire. Alors, dans la croyance populaire, on dit que les aborigènes sont très bons en orientation et en astronomie. Avaient-ils des formes de cadastre pour délimiter les territoires? Alors, ça dépend ce qu'on appelle un cadastre. Vous n'aviez pas, évidemment, d'état civil, de cartes. Ah, des cartes, il y en avait, des simili-cartes. Voilà. Par contre, dans la tête des gens, où s'arrêtait le territoire du clan machin et où s'arrêtait ou quoi, c'était tout à fait clair, tout à fait délimité, et notamment délimité par ces trucs religieux. C'est-à-dire qu'en réalité, les territoires étaient liés à des... le sentiment d'appartenance à un territoire était aussi un sentiment religieux. Il y avait des sites sacrés Voilà, et on savait très bien que le clan machin, et ben, il avait. Voilà. Alors après, ça dépendait des régions. Plus vous alliez dans une région riche et une région dense, plus les territoires étaient fermement délimités. Inversement, quand vous alliez dans des régions genre les déserts, où là, voilà, les gens se mélangeaient, vous pouviez, je parlais des tribus tout à l'heure, pas moyen de savoir où commence telle tribu et où finit telle autre. Vous voyez, c'était beaucoup plus informel, là, c'est lié aux ressources, hein, quand vous êtes dans un désert, si vous commencez à répartir de manière stricte les zones de survie, tout le monde meurt. Hein, voilà. Donc, oui, les territoires étaient très bien, enfin, au moins dans un certain nombre de cas, étaient très bien délimités. Voilà. Quelques mots sur Yuval Noah Hariri. Oui, je ne l'ai pas lu. C'est 5 mots. Voilà. Donc, je ne peux pas répondre. Je sais, moi aussi, que Sapiens a été un énorme best-seller. Moi aussi, j'ai plutôt tendance à être méfiant, mais je ne vais pas en dire du mal, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, ça y est, j'ai épuisé tout le monde. Je vais aller dormir. Peut-être pas tout de suite, mais bientôt.
Vous nous avez montré une photo avec une...
Allô ?
Oui.
On s'en tiendrait là ?
Il y a Feldespace.
Ah, excusez-moi, s'il y a quelqu'un qui me parle, j'avais plus de son.
Oui, vous nous entendez ?
Voilà, j'ai remis le son.
Vous nous avez montré une photo avec un groupe d'individus. Hello. Ah, ben non, il ne nous entend pas.
Tu ne nous entends plus
carrément plus personne qui me parle. En tous les cas, si quelqu'un me parle... Les peintures corporelles... oui, non, je vous entends plus. Alors attendez, je vais essayer de basculer à ce moment-là sur une autre... Quelqu'un peut-il me parler pour que je fasse un test ?
Allô, allô. Est-ce que vous nous entendez ?
Oui, ça y est.
Allô, allô.
Check, ouais, check. One, two.
One, two, moi, one, two.
J'ai une enceinte connectée capricieuse. Voilà,
Tu ne nous entends pas ? Non, toujours pas ?
Check. Si, si, moi, je vous entends, là.
Ah, ben bah, voilà, c'est bon. Vas-y, fais.
Vous nous avez montré une photo avec un groupe d'hommes qui partaient faire ce qui s'apparenterait à une expédition punitive. Et ouais. Ils portaient tous des masques. Est-ce qu'on peut dire que c'était des vengeurs masqués ?
Non, non, ils n'avaient pas de masque. Mais ils étaient souvent peinturlurés. Et oui, oui, il y avait. Je vois quelqu'un qui a demandé sur les peintures de guerre. Oui, oui, il y avait des peintures corporelles, des peintures de guerre. Une de celles que j'ai montrées, je ne sais pas si je vais la remontrer là maintenant, mais les mecs. Tac. Voilà. Hop. Si vous la voyez là, ouais. Vous voyez mon écran ou pas là ?
Non, je pense qu'il faut que vous rebasculiez dans le mode où vous étiez avant.
Oui, c'est ce que j'ai fait, mais sans succès. Ça revient. Je vais y arriver.
Ah non, ça vient peut-être de moi. Non, ça vient de vous en fait.
Ah bah merde alors. Ça m'arrange pas cette affaire. Qu'est-ce que j'en ai foutu ? Oh là là là. Je suis en train de chercher une diapo, évidemment, c'est celle que... Voilà, ça y est. Pourtant, moi, j'ai... Faut que j'arrête le... Je vais carrément arrêter le zoom. Vocal livre blanc. C'est bien ça, non ? Diaporama. Changer de fenêtre. Faut faire mieux que ça. Voilà.
Je ne sais pas pour les autres, mais pour ma part, la fenêtre, elle est en chargement. Je vois pas. Mais, enfin, bref.
C'est pas grave. Écoute, je vais pas passer la soirée là-dessus. Oui, donc ils avaient des peintures et bon, qui pouvaient être variables, mais alors en particulier un truc qu'ils aimaient bien dans un certain nombre d'endroits, c'était se peindre en squelette. Donc ils étaient noirs, hein, ils sont foncés de peau. Donc ils faisaient des bandes comme ça un peu partout sur le corps pour ressembler à des squelettes. Et ça avait plusieurs avantages. D'abord, quand vous chopez un campement ennemi au petit matin, si vous avez des peintures comme ça, bah, vous vous reconnaissez. Ça évite dans la confusion de se tuer entre soi, ce qui est quand même toujours dommage. Et puis d'autre part, accessoirement, ça terrorise un peu l'adversaire. Enfin, vous voyez, ça, voilà. Mais donc, oui, il y avait des systèmes de peinture corporelle et de choses comme ça. Voilà, bah, c'est eux. Alors, vous pouvez continuer de parler, bah, c'est ce que je fais. Ouais, voilà. Voilà, je vais m'arrêter du coup, mais.
Mais ça devait
ouais,
être
intimidant. Est-ce qu'il y a des gens qui ont encore des questions? Ah, pardon, Feld, je t'ai coupé.
Non, je disais que ça devait être intimidant de voir 15 gugus peinturlurés en squelette qui viennent pour vous casser la tronche.
Ah ben ça, je confirme, oui. Mais, même tout connement, hein, moi, j'ai sous-pesé des armes aborigènes. Donc, il y en a quelques-unes en France. J'ai eu le bol d'aller visiter les réserves d'un musée à La Rochelle. Et je peux vous assurer, alors moi, la bagarre, c'est pas trop ma cam, hein, mais voilà, mais rien que de sous-peser une massue en se disant il y a un mec qui veut vous la coller à toute force sur la tronche, ça fait pas envie. Hein, et alors, les barbelés que vous avez vus tout à l'heure, quand vous vous dites à vif, vous vous faites embrocher avec ces machins-là, voilà. Ah, la vie du chasseur-cueilleur n'était pas faite que de lait d'amande, de miel et d'amour.
Et ils utilisaient aussi leur boomerang, parce que je veux dire, ouais. Ça doit quand même être compliqué à fabriquer un boomerang. Enfin, c'était pas un problème de le perdre un boomerang dans la bataille.
Alors, les boomerangs, t'en as de plein de sortes. D'abord, le boomerang, c'est la grande réussite technique un peu des aborigènes. Enfin, en matière d'armement, hein, il y a toujours des gens pour dire qu'ils n'avaient peut-être pas l'arc, mais enfin, n'empêche que le boomerang, c'était quand même finaux. Voilà. Après, le boomerang, méfiez-vous, il y a le modèle retournant, hein, donc celui que nous, on aime bien. Hein, tu le lances, il revient à peu près là où tu l'as lancé, puis avec un peu de chance dans la gueule de ton voisin, mais voilà. Mais ça, c'était pour les aborigènes, c'était quasiment qu'un truc ludique. Hein. Éventuellement, ils avaient des modèles comme ça pour la chasse aux oiseaux, mais c'est tout. Et en fait, la quasi-totalité des boomerangs aborigènes n'étaient pas retournants. C'était des bâtons qui faisaient une espèce de vol plané, mais qui allaient plus ou moins en ligne droite. Donc après, est-ce qu'ils se faisaient beaucoup, beaucoup chier à les fabriquer ou pas? Ils en avaient en tous les cas suffisamment pour avoiner avec ça pendant les batailles. Typiquement, les batailles, alors quand c'était des batailles rangées, donc les batailles régulées, etc., on commençait au saguet, et puis quand on n'avait plus de saguet, on envoyait quelques boomerangs, et puis quand on n'avait plus de boomerangs, ben, on se finissait au corps à corps. Quoi. Voilà, c'est, Après, l'avantage, c'est que tu récupérais aussi ceux des autres, hein. Que toi, t'envoies les tiens, mais eux, comme ils t'envoient les leurs, et t'as les femmes, qui sont là, en particulier, qui s'occupent de ramasser les munitions pour les repasser aux mecs. C'est un grand classique dans les batailles.
Ça devait être folklorique.
On peut dire ça comme ça, oui. Ah ben, il y a des descriptions autant couleurs. Hein, Et puis, il y a des... Enfin, encore une fois, ça... Il y a le côté, comment dire, il y a des descriptions par des Occidentaux qui disent « Ah là là, qu'est-ce que c'est pittoresque », etc. Puis il y a vraiment des chaînements de violence qui sont vraiment… Excusez-moi, je récupère un chat qui n'a toujours pas compris que c'était lui dans le miroir. Et que... Lui aussi, un déchaînement de violence. Voilà. Bon, est-ce qu'on s'en tiendrait là, du coup ?
Ouais, ok. Ben, merci encore, Christophe. Super.
Et ben, de rien. Et puis, si vous avez envie de prolonger la discussion, ben, vous venez faire un tour sur le blog. Et puis, a priori, vous y serez pas mal reçu. Voilà.
Yes, merci, c'est gentil.
Je vous en prie.
De même, à une prochaine, si tu as encore envie de revenir une troisième fois, nous faire un exposé, ce sera avec plaisir également. Encore une fois, c'est okay. Super. Merci aux autres pour les questions. Et bonne nuit à toi et au chat. Et encore merci.
C'est ça. Merci à tous.
Ciao, ciao, merci.
Merci.
Au revoir. Léa, c'est toi dans la glace, imbécile de chat. Mais que tu es bête, mon pauvre chat.
Bon, bah, encore une fois, très instructif.
N'est-ce pas? Moi, ça me plaît beaucoup, moi, tout ça.
Ouais, très bien. Je vais aller couper les bottes.